L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui creuse. Ou plus exactement, qui fouille, comme on le fait régulièrement. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui le Centre départemental d'archéologie du Fou. Plus exactement, Lydie Mano, qui travaille momentanément pour le centre autour des fouilles du château de Roquemorvan à La Roche-Maurice. Alors, nous avons parlé du château avec Ronan Perennec lors des précédentes émissions que je vous invite à retrouver sur notre site internet. Ronan Perennec nous avait expliqué qu'il avait trouvé de très nombreux restes d'animaux. Et pour examiner ces restes, le Centre départemental d'archéologie a donc fait appel à une archéozoologue indépendante, c'est Lydie Mano. Et comme elle est basée à Rennes, nous l'avons enregistrée il y a quelques jours à l'occasion d'un de ses passages dans le film. Bonjour Lydie.
Bonjour Véronique.
Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer ce qu'est une archéozoologue, tout simplement?
Alors c'est au départ un archéologue qui est spécialisé dans l'étude des ossements des animaux que l'on trouve sur les chantiers de fouilles archéologiques.
Et dans votre cas, est-ce que c'était une évidence? Enfin, comment vous en êtes venue à devenir archéozoologue?
Alors c'était pas du tout une évidence, vu qu'au départ j'étais partie dans un cursus d'égyptologie. Et les circonstances ont fait que je n'ai pas pu continuer dans cette voie-là. Et après, il y a eu une suite de hasards et d'opportunités qui font que je me suis retrouvée dans un cursus d'archéozoologie, en master au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui fait que je suis archéozoologue aujourd'hui.
Dites-nous en plus sur ce master, qu'est-ce que vous étudiez
en... Alors en fait, c'est un master très intéressant qui est pluridisciplinaire. Donc on y étudie... Alors le but, je ne sais plus trop si c'est vraiment le but affiché, mais ce qu'on nous a expliqué aussi au début, c'est que le but est de former des archéologues, notamment des responsables d'opérations pour certains, qui vont pouvoir savoir, une fois sur le terrain, à quel spécialiste s'adresser en fonction du terrain, en fonction des vestiges qui sont trouvés. Et après, à un moment dans le master, si on le souhaite, on peut se spécialiser dans l'une de ces spécialités. Donc on étudie un petit peu toutes les spécialités qui peuvent apparaître sur un chantier de fouilles. Et moi, j'ai choisi, au final, l'une de ces spécialités pour travailler.
Et on vous faisait travailler sur des animaux en particulier? Enfin, comment ça se passait concrètement?
Alors non, c'était une formation, donc on a vu un petit peu tout ce qui est possible de trouver d'un point de vue ossements, dents ou différents restes comme les chevilles osseuses, les bois de cervidés, etc. Et le cuir aussi, donc on a vu un petit peu un panel de tout ce qui est possible de retrouver sur des chantiers de fouilles en fonction des différents modes de conservation. Et donc on a vu même des choses en fait, des animaux qui ne sont pas présents forcément en France. Et le but c'était vraiment de reconnaître les os, déjà dans un premier temps, faire la différence entre des ossements de mammifères, des ossements... d'amphibiens ou d'oiseaux, etc. Donc voir, essayer de reconnaître au premier coup d'œil quel groupe ça peut appartenir. Et à partir de là, ensuite, savoir de quelle façon étudier chaque groupe d'animaux, en fait.
Et donc ce qu'on comprend, c'est que le Muséum National d'Histoire Naturelle est amené finalement à travailler avec des archéologues régulièrement, en fait, c'est
oui,
ça?
Oui.
Et donc après, vous avez poursuivi, ça vous a plu, vous êtes tombé dans l'archéozoologie.
C'est ça. Exactement, en fait. On m'a proposé ça en fait, dans le cadre d'un stage que je faisais déjà au muséum. Et donc j'étais en stage dans les collections de comparaison du muséum. Donc en gros, mon travail, c'était de... J'ai appris en fait sur le tas à déterminer des os, à les ranger, puisque dans les collections, en fait, ils ont... donc c'est un établissement qui est à la fois destiné à la recherche, mais aussi à l'enseignement. Donc, pour pouvoir enseigner dans ces domaines-là, il faut avoir des collections de référence, des collections de comparaison. Donc, ils ont tout un panel de collections de taxidermie, par exemple.
Et on peut en voir, d'ailleurs.
Auxquelles on a accès, le public a accès, c'est ouvert. Et ils ont aussi des collections ostéologiques. Donc moi, j'étais en stage dans ces collections-là. Donc mon travail, c'était de vérifier les fiches d'inventaire et en fonction des fiches d'inventaire, de regarder si ce qui était dans les caisses de conservation était identique à ce qui était marqué sur les fiches. Donc, il a fallu que j'apprenne à identifier des os, à les reconnaître, à les différencier en fonction de la partie anatomique, des espèces, etc. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et parmi ces gens-là, l'une des personnes qui travaille m'a proposé d'étudier un lot d'ossements provenant d'une fouille, à condition que j'accepte d'intégrer l'un des masters du muséum. C'est pour ça que je me suis retrouvée engrainée dans un master d'archéozoologie. Il s'est trouvé justement l'opportunité qu'il avait un lot d'ossements à étudier, une étude en cours, et il me l'a proposé, j'ai dit oui, et voilà.
Donc là, ça fait combien de temps, en fait
Moi, je suis à Rennes depuis 2013, et mon master s'est passé juste avant, pendant 3 années.
Et à Rennes, vous travaillez pour qui, pourquoi
Alors, jusqu'à maintenant, je travaillais pour l'INRAP. Et donc récemment, le CDA, avec qui j'ai déjà fait des fouilles archéologiques en tant que bénévole et sous contrat aussi, en tant que chef de secteur, m'a proposé de faire l'étude de la faune de la Roche-Maurice.
Alors voilà, on y arrive. Qu'est-ce que vous allez examiner déjà? Enfin, quelle quantité, puis quel type d'os, enfin de matériel, on va dire, pour être plus général?
C'est la grande question. En fait, la quantité, c'est énorme. Alors moi, depuis 2 ou 3 semaines, j'ai pu jeter un œil déjà aux os, puisque j'ai commencé à les étudier.
Donc ce sont des ossements, essentiellement des os.
Ce sont des ossements pour le moment de ce que j'ai vu. Après, j'ai pas eu le temps de... Alors, il y a 2 types de faune. Il y a ce qu'on appelle la grande faune. Ce sont les os des grands mammifères, en fait, qu'on étudie à l'œil, qu'on trouve à vue pendant la fouille en général. Et les ossements donc, qu'on appelle les microvertébrés. Donc, d'accord, c'est tout ce qui est amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux, même si certains oiseaux et reptiles et poissons pardon, peuvent entrer dans la faune de taille moyenne, on va dire, enfin, disons ouais, pas de la faune microvertébrée. Moi, je les étudie dans ce cadre-là de faune microvertébrée, puisque ce sont des ossements que l'on trouve pendant la phase de tamisage du sédiment que l'on a prélevé sur le terrain.
Alors justement, le terrain, c'est quoi exactement? C'est l'enceinte du château de la Roche-Maurice? Enfin, c'est où exactement
Moi, je reçois les os, donc ça a été déjà fouillé, c'est pas moi qui ai fouillé. Donc moi, ce que je reçois, en fait, ce sont des caisses d'os ou de sédiments à tamiser ou qui a déjà été tamisé, donc avec des os mélangés à des graviers du sédiment ou des fois déjà triés. Donc dans ces cas-là, j'ai juste des sacs remplis d'os. Et j'ai des numéros de couches de fouilles qui correspondent à chaque lot d'os. Et donc après, moi, je dois essayer de récolter les informations sur ces différentes couches pour savoir d'où viennent mes os.
C'est vous qui allez indiquer, en fait, ce que c'est en indiquant quel type d'animaux c'est, par exemple. Vous allez dire, ah ben tiens, ça c'est plutôt du quelque chose qui a été mangé, un animal qui a été mangé. Enfin, c'est ça que vous allez faire?
C'est ça. Alors, ça, ce sont les premières informations qu'on obtient et auxquelles on s'attend quand on ne connaît pas trop la discipline. C'est effectivement, qu'est-ce que les gens ont mangé?
Oui, parce qu'on se dit que c'est des poubelles, a priori. Enfin, que ça serait des poubelles.
C'est ça. Mmh. Après, les os permettent d'obtenir beaucoup plus d'informations que juste ce que l'on a mangé. Et moi, c'est la partie qui me plaît encore plus, en fait, puisque bon, ce qu'on a mangé, pour être honnête, ça n'a pas énormément évolué depuis des siècles.
Ah, hein, oui.
Depuis la domestication, on mange du bœuf, du cochon, du mouton, voilà quoi.
Ouais.
Après, donc il va y avoir des variations locales ou en fonction des périodes, bien sûr, notamment dans la quantité de chaque espèce consommée, en fonction des différents âges aussi, des animaux qui vont être consommés. Mais globalement, on mangeait à l'époque les mêmes espèces que l'on consomme aujourd'hui.
Ouais, quand on dit à l'époque, c'est au Moyen-Âge. Enfin, voilà,
oui, enfin, ou même dans l'Antiquité, en
ouais,
fait.
Ouais, peut-être qu'ils mangeaient un petit peu plus de choses que nous, non? Non. Ils étaient peut-être moins difficiles, non ? Peut-être qu'ils mangeaient des coquillages qu'on ne mange plus, non ? Même pas.
Alors honnêtement, pour les coquillages, je ne sais pas du tout.
Ah, c'est pas du tout ma partie. Ah, d'accord,
moi,
ok.
C'est uniquement à partir du moment où il y a des os.
C'est les vertébrés.
C'est très restrictif.
D'accord,
C'est uniquement les vertébrés.
Ouais,
après,
okay.
J'avoue que je ne suis pas en mesure de parler des coquillages.
C'est ça, on ne peut pas être spécialiste en
non plus.
Non,
je ne connais pas assez. Puis bon, il faut dire, ça m'intéresse moins que les os aussi.
Ouais, bah, très bien, mais vous avez tout à fait le droit.
Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant.
Mais je ne sais pas, parce que je me dis, est-ce qu'il y a une époque, par exemple, où on mangeait du chat, puis on ne le mange plus de chat,
tout à
par
fait,
exemple.
Par exemple, ou du chien. On connaît beaucoup plus la consommation du chien, notamment, puisqu'elle est étalée sur plusieurs périodes. La consommation du chat se retrouve, on va dire plutôt, elle diminue dans l'Antiquité, en fait, sous la romanisation, en fait. On a de moins en moins de chats, voire plus du tout, alors que le chien va un peu continuer et va se retrouver aussi au Moyen-Âge, donc selon les périodes, selon les localités aussi. Donc ça peut varier.
Ouais, puis savoir si par exemple on mangeait du... Enfin, je pense aux îles par exemple, où quand vraiment on avait faim, on pouvait manger des mouettes, enfin c'était pas bon, donc ça indiquait que par exemple il y avait une période de famine.
Par exemple, alors,
comme ça,
du coup on appelle ça les... Ça ce sont les chasses ou les pêches opportunistes, donc c'est-à-dire qu'on va profiter de ce qui va se présenter au moment où on va aller chasser ou pêcher. Et même si c'est pas un animal qu'on a l'habitude de consommer, on va profiter de sa présence à ce moment-là. Bah pour le tuer, en fait, pour le récupérer, pour l'ajouter à la consommation, quoi. Et c'était souvent aussi le cas pour les sites sur lesquels on a du chat qui est attesté, par exemple. C'est souvent dans ces circonstances-là. Mmh. Ça va être une alimentation opportuniste parce qu'on a faim, parce que c'est une période plus difficile. Et pour le chien, ça peut arriver que ce soit aussi dans ces circonstances-là. C'est moins systématique. Mais ça peut arriver aussi. C'est le cas aussi pour le cheval.
Oui, bien sûr.
Très tôt, va arrêter d'être intégré aux assiettes. Et quand il réapparaît, parfois, ça peut être lié à une période de disette, puisque même si on n'a pas vraiment d'interdit de consommation du cheval avant la fin du Moyen-Âge, 15e ou 16e siècle, si je me souviens bien, on a quand même un certain tabou à la consommation de cet animal-là. Et même, on a des textes, en fait, du Moyen-Âge, par exemple, qui indiquent que c'est vraiment dans des cas extrêmes où on va accepter de consommer du cheval.
Mmh, d'accord.
Donc, en période de disette ou de guerre, de famine.
Ouais. Pour en revenir à la Roche-Maurice au Moyen-Âge, vous disiez, donc, certes, il y a l'information sur l'alimentation, mais quelles sont les autres informations que les animaux, enfin, les ossements vont vous donner, alors ?
Alors, donc... Ce qui va être directement lié à l'étude donc, des animaux domestiqués, donc le bœuf, le cochon, les caprinés, donc chèvre, mouton, ça va être donc, tout ce qui est estimation des âges, donc qui va donner des informations sur la gestion des troupeaux et sur le niveau social des populations qui vont consommer ces animaux, puisque par exemple, pour donner des exemples très concrets, si on consomme un animal très jeune, c'est un coût plus important, on va dire. Puisque un animal très jeune ne va pas pouvoir être utilisé pour autre chose et il va en falloir plus, puisque ça va apporter moins de viande en fait qu'un animal adulte.
Donc si on mange des animaux très jeunes, c'est qu'on a de l'argent. Enfin,
c'est qu'on a un niveau social plus élevé. Oui.
Okay.
Donc c'est une bonne indication. Quand il y a beaucoup de jeunes sur un site, c'est une indication qu'il y a a priori un bon niveau social. Alors toutes ces informations sont bien sûr à recouper avec les autres informations apportées par les autres spécialités et le terrain lui-même, puisque l'archéozoologie toute seule ne va pas permettre d'affirmer de façon fiable vraiment des informations isolées, en fait.
Ouais.
C'est toujours à voir en association avec le reste.
C'est ça. Donc, vous identifiez, en fait, déjà l'espèce animale,
c'est ça.
Son âge, son traitement éventuel, si c'est visible, enfin,
exactement.
Est-ce qu'elle a été grignotée?
Il peut y avoir des traces de découpe, par exemple,
d'accord.
Laissées par des... Comme on a aujourd'hui, en fait, des tranchoirs qu'on a en boucherie ou des couteaux. Donc, ça laisse des traces différentes. Par exemple, le tranchoir va laisser une trace biseautée et très large, alors que le couteau va laisser de fines incisions sur l'os. Et ces traces-là ne seront pas aux mêmes endroits. Les incisions de couteau, par exemple, vont être au niveau des tendons, puisque ça va permettre de couper les tendons pour mieux détacher les os.
D'accord.
Alors que les traces de tranchoir vont pouvoir être sur la partie longue d'un os pour découper l'os en fait, d'un seul coup, comme on fait en boucherie pour séparer les grandes parties des animaux. Ça, par exemple, ça va se faire, on aura beaucoup de traces de tranchoirs, par exemple, au début du débitage d'une carcasse, pour rendre la manipulation plus facile.
Pour savoir ça, vous avez dû aller faire des stages en boucherie ou...
Non, alors j'ai regardé, j'ai lu des publications justement qui expliquent les différences entre ces traces-là et à quel type d'outils elles peuvent être associées. Et après, en fait, j'ai juste observé ce que je mange, en fait. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est, mm-hmm. même s'il y a des petites variations... on découpe un animal aujourd'hui un petit peu comme on le découpait à d'autres époques. Quoi. Ouais. Ça, aujourd'hui, c'est plus mécanisé, ouais. mais sinon, le principe est le même. Hein. Ouais. Le but, c'est de séparer l'animal en quartiers pour le rendre plus facilement manipulable et ensuite le rediviser en petits quartiers pour pouvoir le vendre et que les gens puissent le mettre dans leur assiette. Entre un bœuf en entier et ce qu'on finit par avoir dans l'assiette, ça implique plusieurs étapes de découpe. Quoi.
Ouais. Sauf que après, bon, on pourrait faire une parenthèse sur l'industrialisation qui fait que les oui. archéologues du futur ont peut-être encore plus de mal à comprendre.
Oui, c'est possible.
C'est en tout cas possible. Pour vous, pour ce qui concerne vos époques, vous n'avez pas une époque de spécialité finalement. Enfin,
non,
vous, ouais,
alors
c'est ça.
Ça dépend des études qu'on me propose en fait, puisque du coup, bah, des os, on en retrouve sur toute la période historique et même avant. Du coup, ça va plus dépendre de ce qu'étudient les personnes qui vont me proposer ces études. Jusqu'à présent, j'ai eu essentiellement des études sur les périodes gallo-romaines et quelques études sur les périodes médiévales.
D'accord. Pas encore de préhistoire ou...
Alors, préhistoire, c'était pendant mon master, pour le coup.
Ouais.
Mais depuis, j'ai eu des périodes un peu plus anciennes, premier millénaire avant maximum, quoi. Mmh. Enfin, au plus ancien, je veux dire.
Et qu'est-ce que vous pouvez voir encore, sinon, donc à part l'âge de l'animal
donc, son... de quelle façon il a été tué ? Donc ouais. Ça, c'est pas systématique, hein. Il faut que ça laisse des traces bien précises, mais on peut des fois le retrouver. Par exemple, on peut retrouver des perforations dans le crâne, qui indiquent que l'animal a été tué d'un coup dans le crâne. On peut retrouver un peu plus rarement et plus difficilement des traces de couteau sur les vertèbres cervicales. Et pour le reste, c'est assez difficile d'identifier. Quand c'est une tuerie volontaire de la main de l'homme, c'est déjà plus difficile. Après, on peut observer des pathologies osseuses, donc qui peuvent être liées au traitement de l'animal pendant sa vie, à son âge. Ils ont, en fait, ce sont des mammifères, hein, donc comme nous, donc ils sont soumis aussi aux mêmes désagréments liés à l'âge. Donc ils peuvent avoir de l'arthrose, ils peuvent avoir des fractures osseuses aussi au cours de leur vie qui finissent par se consolider, comme pour nous, et donc qui vont créer une cicatrisation sur l'os, donc qui peut aussi être observée, d'autant plus que chez les animaux, c'est rare que ce soit pris en charge à ces époques-là, donc ça laisse des traces très visibles sur les os qui peuvent être déformées, qui peuvent s'être mal ressoudées. Donc ce genre de choses est visible quasiment au premier coup d'œil, hein, quand on tombe dessus. Et donc tout ça, ça donne aussi des informations sur le traitement et le soin qui est apporté à l'animal durant sa vie. Mmh. On va pouvoir savoir si un animal, par exemple, si c'est des animaux de vaches assez âgées, on va pouvoir, si on retrouve des traces de découpe dessus, on va pouvoir en déduire que c'est un animal qui a été utilisé pendant toute la durée de sa vie et en fin de vie qui a quand même été consommé, alors que c'est pas la meilleure viande a priori. Donc on peut en déduire que éventuellement, avec les indices qui sont autour, en plus des os, que c'était peut-être pas une population si aisée que celle qui aura consommé beaucoup d'animaux jeunes, par exemple.
Après, vous pouvez aussi tomber sur des animaux domestiques purement d'agrément, enfin, des chiens justement, mais de compagnie.
Tout
quoi.
À fait. On a certaines époques où on sait que le chien n'était pas consommé, par exemple. Donc, quand on en trouve sur les chantiers de fouilles, on sait que c'était des animaux d'agrément. Alors, animaux d'agrément, il faut prendre le terme de façon très très large, du coup, puisque ça pouvait être des chiens de chasse, des chiens de compagnie, des chiens de garde, des chiens de berger. Donc, on sait que toutes ces catégories de chiens existaient déjà dans l'Antiquité. Après, bon, pour savoir si c'était l'un ou l'autre, c'est un peu plus compliqué. Certains spécialistes, encore plus spécialisés, vont pouvoir orienter l'hypothèse finale vers l'une ou l'autre de ces catégories grâce à des études plus spécifiques sur les races de chiens. Donc là, on a la génétique qui entre en question, les études ADN, tout ça, ouais. Donc, qui ne me concerne pas du tout, moi.
Mais vous pouvez être justement, vous pouvez être amené à, comment dire, quand vous avez étudié vos ossements, après vous allez donc justement faire appel à d'autres spécialistes pour compléter vos études, je suppose.
Alors ça dépend des études. La plupart de mes études, je les fais entièrement seule, entre guillemets, hein, puisque l'étude va être intégrée à... toute une étude sur le site lui-même et donc associée à d'autres études de spécialistes, par exemple la malacologie qui étudie les coquillages. Donc ça va être en association avec ça, ça va être associé aux études de céramique. Donc je ne suis pas toute seule quand j'étudie, quand je fais une étude pour un site.
Non, bien sûr.
Mais oui. L'étude archéozo elle-même, je vais la faire en général seule. Après, je vais, si nécessaire, si j'en ai la possibilité, je vais pouvoir demander un conseil ou un avis à quelqu'un. La difficulté en ce qui me concerne, c'est que comme je suis indépendante, j'ai difficilement accès à d'autres collègues, en fait, mm-hmm. notamment en étant en Bretagne, où il n'y a pas d'autres archéozoologues, en fait. Il y en a dans le privé. Mais il n'y en a pas d'autres dans l'archéozoologie, dans les services publics, en fait.
Ouais, mais là, par exemple, si vous tombiez sur un os qui a été carbonisé, est-ce que vous pourriez avoir recours à un anthracologue pour savoir comment est-ce qu'il a été brûlé ? Enfin, je ne sais pas.
Hein, alors, en théorie, je pourrais, mais ce serait à ma charge, de faire intervenir un laboratoire. À moins de réussir à convaincre les chefs, entre guillemets, pour lesquels je fais l'étude, qu'il faut absolument faire une étude supplémentaire là-dessus. En fait, je peux avoir un avis de conseil sur certains points. Par exemple, dire ça, par contre, c'est vraiment très rare, très intéressant. Moi, je ne suis pas en mesure de l'étudier, mais il faudrait vraiment essayer de le faire étudier par quelqu'un d'autre ou par un laboratoire, parce que ça va donner des informations supplémentaires très importantes.
Et qu'est-ce qu'on peut obtenir d'autre comme information alors
Donc, en fait, donc je vous ai parlé, par exemple, des différents produits que l'on peut obtenir à partir des os. Comme des objets, des outils. On peut aussi obtenir du fil, par exemple, pour coudre à partir des tendons.
Ah, oui.
Entre autres, on peut obtenir de la colle avec les os. On peut créer des instruments de musique, par exemple. Mais les os eux-mêmes peuvent aussi apporter des informations au niveau sanitaire des populations, au niveau de leur hygiène, au niveau des différentes maladies possibles. Donc aujourd'hui, on connaît bien ça maintenant avec le Covid, donc qui est ce qu'on appelle une zoonose. C'est une maladie qui vient d'un animal. Et donc à ces époques-là, on a comme aujourd'hui des rats, des souris, donc différents animaux qui vont être en contact plus ou moins direct avec les populations. Et la présence de des ossements de ces animaux-là, donc parmi les restes des microvertébrés cette fois-ci, vont donner l'information qu'éventuellement, les animaux ont pu avoir des maladies qui ont pu être transmissibles à l'homme.
Parce que, par exemple, s'il y a beaucoup de rats, qu'est-ce que ça indique ?
Alors déjà, ça peut nous donner des informations du point de vue alimentaire. Les rats, en l'occurrence, vont se nourrir d'un petit peu tout. Par exemple, il y a certains types de rongeurs qui ne vont manger que du grain, que des céréales. Donc on sait qu'on sera dans une zone... ou à proximité d'une zone de stockage de céréales ou d'un champ. Donc voilà, selon les microvertébrés qui vont être présents, ça peut donner des informations aussi sur les structures présentes et sur la population présente. Par exemple, avec une abondance de rats, on sait que le rat peut mordre, qu'il peut être porteur d'une bactérie qui est à l'origine de la peste. Et c'est comme ça que, par exemple, on a retracé la transmission de la peste au cours dans les différentes périodes où on a identifié cette épidémie. On a pu retracer le chemin de la transmission de la peste à travers les populations.
Même si ça ne s'inscrit pas dans, dans le squelette du rat, la peste.
En fait, si justement, c'est grâce à ça. Alors, c'est pareil, c'est pas tout à fait du tout même mon domaine. Mais quand j'étais en master, le responsable de mon master, en fait, travaillait sur ça, en fait. Et il étudiait au niveau génétique l'origine des souris. En fait, et ce sont des souris qui vont être présentes évidemment sur les bateaux. Les bateaux s'arrêtant dans les ports vont transmettre des souris ou des rats vont transmettre des maladies ou vont sortir et se reproduire sur d'autres continents ou dans d'autres pays et transmettre les bactéries, les maladies qu'ils peuvent porter. Donc, grâce à des informations génétiques, il a été possible de reconstituer le chemin pris par la peste, par exemple. Voilà, c'est vraiment très résumé.
Oui, je comprends, parce qu'elles se reproduisent, en fait, peut-être en parcourant un kilomètre, en gros, et puis il y a une nouvelle génération.
En fait, ce sont des générations très courtes, donc, qui vont être possibles à suivre assez facilement. Voilà. Et comme elles se reproduisent beaucoup, on retrouve facilement des restes de ces animaux-là.
Oui, parce qu'on sait, mais on sait quand même, on est quand même sûr que c'est ces souris-là qui portaient le bacille de la peste.
Donc ça, justement, on va, pour le coup, la peste sera plutôt les rats, mais on va identifier les espèces précisément. Et après, en faisant des analyses un peu plus poussées, on va identifier que c'est la même branche génétique qu'une autre branche dont on sait qu'elle a été porteuse de la peste. Voilà. Moi, ce que je vais faire, ça va être, par exemple, de dénombrer la quantité d'individus présents pour chaque espèce sur un site. Et la densité qui est donc observée pour une espèce va donner ce genre d'informations plus ou moins indirectes, du coup, que d'autres spécialistes peuvent utiliser pour faire un autre travail plus avancé dans des domaines un peu plus un peu à l'écart de l'archéologie pure, quoi.
Ça peut être aussi sur la géographie locale. Enfin, c'est-à-dire que si, par exemple, vous trouviez beaucoup de grenouilles, on pouvait supposer que c'était une zone humide. Enfin, c'est ça.
Alors ça, c'est la deuxième partie des informations, effectivement, que je peux avoir. C'est donc les micro-vertébrés, comme vous l'avez dit, vont avoir des générations plus courtes et ils ne vont pas énormément bouger. Donc, en fait, ils sont soumis à un environnement précis, donc à une humidité spécifique, à un ensoleillement spécifique, à un type de terrain de couvert végétal particulier, plutôt de la forêt, plutôt des cultures, plutôt des prairies. Donc tout ça, en fait, va impliquer la présence de certaines espèces. Et donc quand on retrouve, on fait le chemin inverse, en fait, quand on va retrouver les ossements de ces espèces-là qu'on aurait identifiées, ça va nous indiquer qu'il y avait une forêt, ou plutôt une prairie, une mare, ou un terrain aride. Et donc, ça va permettre, toujours en association avec toutes les autres spécialités, notamment le spécialiste qui va étudier les pollens, par exemple, ça va permettre de reconstituer l'environnement végétal, le climat, et aussi le reste de la chaîne alimentaire. Puisque les micro-vertébrés, que ce soit des souris comme des grenouilles ou des serpents ou des oiseaux, vont avoir associé certaines proies et certains prédateurs. Donc, ils vont être présents aussi si cet animal-là est présent.
Donc là, vous disiez qu'il y avait un énorme matériel sur la Roche Maurice. Est-ce que vous pouvez nous donner une image ? Enfin, ça tient quoi ? Dans un camion ?
C'est des étagères. J'ai pas tout vu, en fait, encore.
Ils sont tous au dépôt, je suppose.
Enfin, Y a, en fait, moi, déjà, rien que ce que j'ai commencé à étudier, j'ai une dizaine de caisses. Donc, quand je dis caisse, je parle de caisse de 20 litres.
Ah ouais.
On mesure ça en volume de caisse, en fait. Donc, 20 litres, ça correspond à... Selon la fragmentation des os, pour de la grande faune, ça va correspondre à entre 10 et 300 os, quoi.
C'est
dans
ça.
Une caisse, selon s'ils sont très fragmentés ou pas.
Et vous disposez de combien de temps pour regarder tout le matériel?
Tout le matériel, je ne sais pas encore. C'est justement l'une de mes difficultés cette année, c'est que je dois essayer d'estimer le temps de travail qui va être nécessaire.
Ah, ouais. Donc vous n'en êtes que là pour l'instant.
Ouais, je commence tout juste. Donc pour moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà étudier ce que j'ai mis de côté, donc que j'ai sélectionné avec l'aide du responsable de la fouille. Il m'a dit que ce qui était à étudier en priorité, c'est une couche bien précise dans laquelle il y a une dizaine de caisses de grande faune qui ont été sorties et énormément de sédiments prélevés qui vont donner, hein, je sais déjà, des milliers d'ossements de microvertébrés et notamment des milliers d'ossements de poissons.
Et ils n'ont pas été tamisés encore en fait ?
L'ensemble a été tamisé, du moins pour la couche qu'on m'a demandé d'étudier cette année. Mais je ne vais pas pouvoir tout étudier cette année parce que rien que pour ce qui a été tamisé là, ça va donner, mais je pense... 30 000 ou 40 000 ossements de microvertébrés, quoi. D'après ce que moi, j'ai pu déjà étudier, j'ai déjà fait plus de 10 000 ossements de microvertébrés. Là, vu les quantités qu'il y a, c'est bien plus que ça. Je ne veux pas dire 100 000, parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée, je ne veux pas m'avancer, mais ça, je ne serais pas surprise qu'il y en ait 100 000, quoi.
Donc là, les poissons, vous saurez les identifier, en gros, les reconnaître.
Alors, c'est pas
les mammifères, mais bon.
Vous me demandiez tout à l'heure si je pouvais me faire aider. C'est là où je vais me faire aider, justement. Donc, en fait, moi, mon travail en tant qu'archéozoologue, avec ma formation, c'est d'identifier les espèces, de dire si leur présence est liée à l'alimentation, à de la production de lait, à la production d'un artisanat. Donc, on va récupérer, par exemple, les os pour créer des objets, des outils.
Ou le cuir de poisson, pourquoi pas.
Alors, ce sera plutôt les os de poisson pour faire de la colle, par exemple.
Ah oui, tout à fait.
On utilise encore aujourd'hui cette pratique pour fabriquer de la colle. Pour le poisson, après, ça peut être aussi avec certaines vertèbres, par exemple des aiguilles. On va avoir tout un panel d'objets qui peuvent être créés grâce aux os. Et aussi des objets de décoration grâce aux os ou aux dents, grâce aux bois de cervidés. Les différents animaux qui vont être présents peuvent apporter plusieurs types de produits. Mmh. Et moi, mon travail, ça va être d'indiquer à quel usage ils étaient destinés, pourquoi on les retrouve là, donc hormis leur âge, la gestion des troupeaux même, etc. Et pour les poissons, donc je vais pouvoir effectivement identifier les espèces. Par contre, il y a beaucoup d'autres informations qu'on peut obtenir, mais qui demandent plus de temps, plus de travail et une formation un peu plus spécifique qui permettra d'obtenir leur âge et leur taille. Donc l'apport en viande que cela permet d'avoir. Et donc pour ça, je vais être aidée d'une de mes collègues, Océane Charpentier, qui, elle, va étudier les poissons vraiment plus précisément. Donc moi, je vais identifier des espèces. Mmh. À partir de là, elle va vérifier que je ne me suis pas trompée. Et une fois que cette vérification sera faite, elle va recueillir uniquement certains éléments du poisson que j'aurai identifié, certains ossements, par exemple, ou des écailles, à partir desquels elle va pouvoir reconstituer la taille du poisson et l'âge éventuellement qu'il avait au moment où il est mort.
Parce qu'elle, elle est genre ichtyo-archéozoologue, c'est ça ?
Exactement, elle est ichtyo-archéozoologue.
D'accord.
Ou ichtyologue.
Ichtyologue, ça suffit, d'accord. Et donc, on peut garder des écailles ont pu être conservées. Ça, c'est quelque chose qui se conserve
bien. Oui, j'en ai. Rien que le fait de trier les écailles, ça m'a pris la moitié du temps, là.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Et donc, vous en avez pour combien de temps ? Est-ce que vous savez pour combien de temps ils vont garder
Là, j'ai fait, pour pouvoir faire l'estimation, j'ai regardé en combien de temps je peux trier tant de grammes. Et quand j'aurai une certaine quantité, il faut aussi que je regarde combien de temps je mets à les identifier. Et une fois que c'est identifié, il faut aussi que j'estime le temps que ça me prendra pour interpréter les résultats. Donc c'est rien que ce que j'ai trié là déjà, je pense que ça va me prendre largement les 2 mois de contrat que j'ai avec le CDA. Et donc la difficulté va être de leur dire combien d'années
ça
va prendre en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, vous pourriez très bien travailler plusieurs années.
Ah oui, vu la quantité qu'il y a.
Bon. Bah, à la limite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, non ?
Moi, c'est gentil.
merci beaucoup, en tout cas, Lydie Mano. Et puis, on vous retrouvera, je pense, pour les résultats, justement, pour ce que
Avec
vous allez...
Avec plaisir.
Merci.